évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Les gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Qui sont censés défendre la veuve et l'orphelin?
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Canal FM.
Messieurs, bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. 34 sièges pour le parti uni, 7 pour les autres partis et indépendants, dont 2 pour Bâtir, 1 pour Adi, 1 pour le Togo autrement, 1 pour Clé, 1 pour l'UFC et indépendant. Les deux Buisson obtient un siège avec Robert Olympio. Ce sont là les résultats provisoires des sénatoriales du 15 février dernier, proclamé par la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Les 41 sénateurs viennent d'être connus ou d'être élus. La liste sera complétée par les 20 autres qui seront nommés par le chef de l'État. Comment appréciez-vous ces résultats provisoires des sénatoriales, premiers du genre dans notre pays? Je poserai la question à mes confrères journalistes en studio avec moi. Bienvenue au club. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité de notre pays, tels qu'évoqués par des journaux parus dans les kiosques ce matin. Et également, enfin, pour ce qui concerne la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitok Betomega était à la mise en onde. Jérôme Akoutia assure la mise en ligne. Je suis Pascal Losso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, nous sommes à Baga près de Niamtougou et puis Radio Coctoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Nous sommes toujours heureux quand nous savons très nombreux également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires, Ibn Radio et Radio Lébénais. Ce sont des radios partenaires en ligne. De la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, confrère déjà en studio, c'est bien Gosson Ketomania. Gosson, bonjour.
Bonjour Pascal. Aux auditeurs et auditrices de Canal FM, nous adressons nos salutations les plus fraternelles, sans oublier les fidèles lecteurs du journal Liberté.
J'espère que vous allez bien.
Hormis ce qui ne va pas, on rend grâce à Dieu quand même.
C'est l'essentiel, il faut toujours rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Jacques Diakouti ne nous démentira pas. Jacques, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Oui, comme je l'ai dit tout le temps, lorsqu'on a le souffle de vie, on a la santé, il faut toujours remercier Dieu. Parce qu'on peut avoir l'argent, mais ne pas avoir la santé, Pascal. On peut avoir des milliards sur des comptes, mais ne pas avoir la santé. ces milliards-là ne servent à rien. Donc je crois que si nous avons le souffle de vie, nous avons la santé, et nous bénissons Dieu pour cette santé, pour ce souffle de vie qu'il nous donne. Le reste-là, c'est nous qui allons chercher, comme le disent souvent certains. Vous savez, la richesse, Pascal, si vous voulez être riche, il faut travailler dur. Donc, tant qu'on a la santé et tant qu'on a la vie, il faut que nous puissions bosser dur pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et pour pouvoir subvenir à nos besoins, il faut que les opportunités, les occasions se présentent et s'ouvrent à nous. Donc, notre prière est que les opportunités, les occasions s'offrent à nous pour que nous puissions vraiment vivre sur cette terre pour ne serait-ce que ces quelques temps que nous avons. Donc, je voudrais interpeller le ministre des Travaux publics ce matin, Pascal.
Oui.
Et il y a un sérieux problème au niveau des ronds-points de notre capitale. Ces ronds-points constituent aujourd'hui des dangers pour les usagers que nous sommes. Une fois encore interpellé le ministre des Travaux publics sur le rond-point d'Atikoumé, Pascal. Vous voyez, ce rond-point-là constitue vraiment un danger. C'est-à-dire que quand vous prenez l'axe Atikoumé pour aller vers la CET, et ceux qui quittent par exemple l'axe Adidogomé pour aller vers la CET, pour tourner vers sur ce tronçon-là, c'est vraiment souvent compliqué. C'est très compliqué. Donc il faudrait qu'ils puissent revoir vraiment ce rond-point-là. Peut-être démolir ce rond-point et essayer, ne serait-ce que peut-être, Pascal, de laisser la voie telle qu'elle est. Dès que vous quittez vers Atikoumé, vous ralliez directement à Kossombo. Vous quittez par exemple Adidogomé, vous pouvez rallier à Kossombo sans difficulté. Mais la façon dont ce rond-point est là à ce niveau, vraiment ça crée d'énormes problèmes pour la circulation. Et je crois que c'était avant-hier, un véhicule s'est renversé là-bas parce que vous savez, souvent les policiers restent devant là-bas. Lorsque vous brûlez un peu le feu rouge, ils sont là pour vous arrêter. Donc les gens sont tellement pressés au niveau de ce rond-point pour ne pas se faire arrêter par les policiers. Ça crée vraiment d'énormes dégâts. Donc il faudrait que le ministre des Travaux publics puisse revoir effectivement le rond-point d'Atikoumé.
Merci beaucoup Jacques pour cette interpellation. Je pense que le message est passé et écouté même d'ailleurs par qui de droit. Nous sommes rejoints par notre confrère Urel Nyang. Urel, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonjour au grand frère ici présent. J'ai pris un petit risque en minimisant le temps, donc je n'ai pas vite quitté ma zone que vous maîtrisez très bien. Toutes mes excuses pour ce léger
état. Parce que je t'ai vu quand même arriver tout essoufflé.
mais quand même, je comptais sur quelque chose parce que je savais quand même que mon retard ne serait pas trop visible parce qu'en présentant les journalistes, il y aurait un qui aurait toujours à dire et ça me permettrait de rentrer au studio pendant qu'il parlerait. Voilà, Jacques, il a abordé un sujet, ça m'a permis de rentrer sans accuser.
Quand finalement, c'est que ça t'a rassuré également dans ta condition.
Oui, tout à fait.
merci de répondre justement à notre invitation. Alors, on ne peut pas débattre, on va commencer ce débat sans parler même d'ailleurs des sénatoriales, puisque c'est ce qui a fait en quelque sorte l'actualité dans ce week-end. On l'annonçait, les sénatoriales, et bien sûr, la première ou les premières élections sénatoriales dans l'histoire du Togo, on les a connues le samedi dernier, c'était le 15. Et Uriel, vous êtes revenu bien sûr sur le sujet. Nous avons aussi les résultats provisoires proclamés par la CENI. Vous êtes revenu sur le sujet. Uriel, Mega Info, vous écrivez en attendant les nominations uniques. Compte 34 sénateurs. Il y a le journal Togo Matin aussi qui est revenu sur le sujet. Le journal écrit « Élection sénatoriale unie s'impose avec 34 sénateurs sur 41 ». Alors, Gosson, d'abord, quand on prend la journée de samedi, moi j'ai eu quand même à sillonner certains centres de vote et même la ville d'abord, j'ai constaté quand même qu'il y a un calme et que les uns et les autres ne savaient même pas qu'il y avait quelque chose de ce genre, c'est-à-dire des élections sénatoriales. Finalement, on pourra dire que ça se comprend, puisque c'est une élection, ce sont des élections à suffrage universel indirect.
Que ce soit des élections à suffrage direct, indirect, ou l'adjectif que vous voulez bien lui conférer, c'est On l'a voulu, on l'a imposé, on y est allé. La vie a repris son cours. Pascal, c'est le vin tiré, il faut le boire jusqu'à la lie, qu'on le veuille ou pas. Sauf que nous ne sommes pas les initiateurs d'élections sénatoriales. Des pays ont initié cela, mais ont trouvé que c'est une institution budgétivore qui ne servait à rien. L'exemple palpable reste le Sénégal, qui est à mille lieues de notre pays en matière de développement. Mais si ce pays a trouvé judicieux de botter en touche le rôle des sénateurs pour mobiliser plutôt ces fonds-là en vue de construire une centrale solaire, c'est dire que quoi qu'on veuille reprocher à Macky Sall, à l'heure du bilan, on retiendra quand même que sur certains dossiers, il a pris les bonnes décisions. Aujourd'hui, nous en sommes à 113 députés. Dis-moi, Pascal, de toi à moi, ce n'est pas parce qu'on est sur les ondes. Quand ils étaient 91, et par rapport à ces 113-là, qu'est-ce qui a changé? Si on en était resté à 91 et qu'on avait reporté la mise en place du Sénat au calendrier grec, qu'est-ce qui allait changer en mal en notre pays, si ce n'est que notre budget connaîtrait un semblant de mieux, puisque l'affectation budgétaire qui doit aller au sénateur sera mobilisée pour d'autres fins. J'avais essayé de faire un petit calcul dans le temps en me disant que pour les 61 sénateurs, pour une année et durant tout un mandat, ça fait au moins le milliard. Donc s'il faut que pendant 6 ans, on mobilise ce milliard en faveur des sénateurs, essayons juste de voir ce que ça donnerait si on pouvait affecter ce montant-là à la construction d'infrastructures socio-éducatives. Ça, c'est mon analyse personnelle. Et je suis convaincu, poliment, mais franchement, moi je dirais à notre président de la République qu'il pouvait très bien se passer de ce Sénat-là. Parce que je ne sais pas ce qu'ils viendront faire. Qui plus est, l'Assemblée nationale est pratiquement monocolore. Idem pour le Sénat. Maintenant, pour ceux qu'on va nommer, je veux juste croiser les doigts pour prier à ce que les 20 qu'on nommera, je crois que c'est bien 20.
Et justement, c'est vrai.
Qu'ils ne soient pas oubliés et que le Sénat soit effectivement mis en place. Parce que j'ai encore en mémoire mes confrères qu'on a eu à nommer pour siéger à la HAC. À ce jour, ils triment.
Et élus plus tôt, puisque c'est
la. Et ils avaient été élus. On attendait qu'on nomme d'autres, mais ils n'ont jamais été nommés. J'espère que notre président saura nommer les sénateurs et se souviendra de nos confrères.
D'accord. Jacques, c'est vrai, si on fait un petit calcul, on voit que sur les 54 pays de l'Afrique, il y a 29 qui ont un Sénat. Est-ce que ça ne veut pas dire que nous aussi, nous avons besoin alors de Sénat, si tant est que la politique de gouvernance nous amène là?
Bon, vous savez, Pascal, il y a souvent ce qu'on appelle expérimenter souvent un médicament ou bien expérimenter souvent une culture. Je voulais parler des semences. Je crois que c'est pour la première fois que le Togo veut expérimenter également une culture. C'est-à-dire que ça dépend de quelle culture il s'agit. Peut-être ça peut être un maïs bio ou soit un riz bio. L'essentiel est que si ça peut profiter à nous, population que nous sommes, par rapport à l'expérience que nous voulons faire du Sénat, comme c'est une première expérience, allons-y. Allons-y voir ce que ça peut donner. Si au cours de l'expérience que nous allons faire par rapport à ce Sénat, et si ça ne va pas, ceux qui ont pris l'initiative de créer le Sénat, et finalement, ils vont s'en rendre compte et peut-être qu'ils pourront rebourser chemin par rapport à ce Sénat qu'on veut mettre sur place actuellement. Il est vrai que souvent, Quand vous empruntez, par exemple, un chemin, c'est souvent difficile. Quand vous partez, par exemple, en exil, vous vous posez des questions. Comment sera effectivement le pays dans lequel je suis en train d'aller? Comment vais-je me prendre? Et tout ça, c'est des questions. Et c'est normal. C'est-à-dire que quand vous allez dans l'aventure et vous ne vous posez pas des questions, mais c'est que vous n'avez pas vraiment une conscience. Aujourd'hui, les Togolais qui se posent ces questions, parce que les gens se disent que nous sommes en train de faire un saut dans l'inconnu par rapport au Sénat. Mais c'est une expérience, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que faisons l'expérience du Sénat avec l'Assemblée nationale, quitte que ça ne marche pas, comme Godson l'a dit, dans certains pays, ils l'ont supprimé parce qu'ils ont constaté que finalement, cela ne représentait rien pour le peuple. Donc je crois que comme c'est une expérience, allons-y. Si ça ne va pas, ceux qui ont pris l'initiative que nous puissions créer le Sénat vont s'en rendre compte. Et comme dans presque toutes les entreprises, lorsque l'entreprise ne va pas, Pascal, qu'est-ce qu'on fait? On dépose le bilan. Donc je crois que attendons, c'est au pied du mur qu'on reconnaît un vrai maçon. Donc nous sommes en train de construire le mur. Je crois que attendons de voir quelle forme le mur va prendre. Et on va apprécier après. C'est ce que moi je peux dire par rapport à l'instauration de ce Sénat.
D'accord. Oui, mais Ulé, c'est vrai que pour beaucoup qui interviennent sur les questions à l'ordre du Sénat, donc on pense que c'est en quelque sorte un renforcement de la démocratie chez nous. Est-ce que vous avez aussi la même impression?
Alors, le Sénat, je pense que c'est pas à ce jour du 17 février 2025 que moi je vais opter de m'opposer à la mise en place du Sénat parce que je ne m'étais pas opposé à l'initiative qui devrait conduire à la mise en place des institutions de la 5e République.
Est-ce qu'on avait demandé votre avis?
Mon avis?
Oui.
Mon avis, c'est l'avis des Togolais.
Mais justement, mon avis, c'est l'avis. Est-ce que l'avis des Togolais a été demandé?
Ah, pourquoi pas? L'avis des Togolais a été demandé. Quelle que soit la forme, l'avis des Togolais a été demandé. C'est ce que même les Togolais, dans leur majorité, ont voulu. La forme de la demande de leur avis, c'est ce que les Togolais eux-mêmes ont voulu. Et c'est pourquoi cette demande a pris ce chemin. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que les Togolais, l'avis des Togolais n'a pas été demandé. Alors qu'on a vu les gens sur le terrain organiser d'une manière ou d'une autre les activités pour expliquer et montrer le bien fondé de la chose aux Togolais. Et on n'a nulle part vu ces Togolais sortir en masse pour contester. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire le contraire. Puisque moi seul, je ne fais pas le Togo et l'ensemble des Togolais n'ayant pas contesté, je conclue que la chose continue et la chose est en évolution. Donc, pour revenir sur mes propos, je dis c'est pas à cette date d'aujourd'hui que moi, je pourrais, par exemple, m'opposer à la mise en place des institutions devant permettre le déroulement de la 5e République. Mais le Sénat, j'avoue que si aujourd'hui, on accepte les autres institutions et on dit que le Sénat va prendre beaucoup d'argent, donc il faut le laisser tomber. Moi, je pense que nous ne sommes pas dans l'objectivité, nous ne sommes pas dans les analyses juridiques. Nous ne sommes pas obligés de faire comme les autres, peut-être sur des bases des principes, l'ont fait. Mais comme Jacques le dit, c'est la première fois que nous expérimentons le régime parlementaire. Alors, une fois que nous sommes déjà au bout, on doit continuer, on doit aller. Je ne voudrais pas demain critiquer les initiateurs. Pourquoi vous avez mis en place toutes les institutions, sauf le Sénat, alors qu'on connaît le rôle que doit jouer le Sénat? Le Sénat, les 41 premiers ont été élus. Le président de la République, certainement, dans les jours qui suivront, va se faire le devoir de nommer les 20 restants pour composer les 61. Et à nous maintenant, en ces temps de voir le rôle qu'ils sont en train de jouer, et on peut se renseigner sur leur salaire, on peut se renseigner sur les avantages, on peut se renseigner sur leur cabinet, tout. Et en ces temps, le terme budgétivore pourra être discuté ou non. Jusqu'ici, nous ne l'avons jamais expérimenté. Le Togo n'est pas obligé de payer le même salaire qu'on paie ailleurs aux sénateurs. Donc, en fonction de nos réalités, le Sénat prendra sa forme et on va continuer. Maintenant, Godson avait chuté quelque part. Si j'avais la parole après lui, j'aurais pu commencer par là, mais je n'ai pas oublié l'aspect. Il parlait de nos confrères qui ont été élus à l'Assemblée nationale pour aller siéger à la HAC et qui semblent être oubliés, ou bien qui sont oubliés, qui semblent être oubliés.
C'est plus d'un an, ils n'ont pas été siégés.
Oui, je pense que nous en parlions, moi-même j'en ai parlé, parce que nous n'avions pas parcouru la nouvelle constitution, justement. Si nous nous plaignons, c'est parce que nous n'avons pas parcouru la nouvelle constitution, puisque c'est bien dit que les trois autres seront nommés par le président du Conseil des ministres. Il n'est pas dit que les trois autres seront nommés par le président de la République. Donc, il faut que celui qui sera président du Conseil des ministres le soit avant de les nommer. Sinon, c'est ça, c'est bien clair. Maintenant qu'on est proche de l'installation ou de quoi vous voulez du président je veux parler du président du Conseil des ministres. D'accord. Voilà. Donc, lorsqu'il sera là, je pense que l'une des premières des choses à faire, c'est de nommer les trois membres restants de la HAC pour que nos confrères puissent aller siéger et jouer leur rôle. Donc, aujourd'hui que nous comprenons, à mon avis, c'est de laisser terminer les choses pour qu'on puisse les apprécier, parce que personne ne nous a, une fois interdit, d'apprécier, et c'est notre rôle d'apprécier. Donc, ils n'ont qu'à terminer par la nomination des 20 autres sénateurs et mettre le Sénat en place. Et nous, on verra bien quel est le salaire de chacun, d'accord, qu'est-ce que cela consomme au pays par an. Et on verra, on saura s'il faut apporter d'autres critiques ou pas.
Alors, Dawson, intéressant nos résultats, résultats provisoires proclamés par la CENI pour les sénatoriales. C'était hier, aux environs de 14h30, la CENI a proclamé les résultats. Et je donnais même les chiffres lors de ces résultats. Il y a 34 sièges pour le parti uni, 7 pour les autres partis indépendants, dont 2 pour Bati, 1 pour Adi, 1 pour le Togo Autrement, 1 pour Clé, 1 pour l'UFC et l'indépendant, les deux Buissons, et obtient également un siège avec Robert Olympio. Alors, quelle est l'appréciation que vous faites lors de ces résultats, Gosson?
J'aurais pu me passer de répondre à la question, mais puisqu'elle m'est adressée, c'est juste pour dire que, pour utiliser cette métaphore en minant facile, quand un aveugle te menace de te jeter une pierre, faut réaliser qu'il a déjà un pied posé sur une pierre. Ce message s'adresse à ceux-là qui cherchaient mordicus à aller au sénatorial.
Est-ce que vous voulez parler peut-être alors de Robert Olympio? Parce que
le verre à moitié vide. Soit tu dis qu'il est à moitié plein.
Non mais attends.
Quand même nous disons la même chose, les termes que j'ai utilisés sont clairs, précis et concis.
Je n'ai pas cité de nom ici.
Dieu merci que vous l'avez reconnu.
Chacun se reconnaîtra la même chose.
Chacun se reconnaîtra dans ce que j'ai dit, mais je réalise simplement que les gens ne savaient de quoi ils parlaient quand ils tenaient coûte que coûte à aller. Parce que quand tu vois le corps électoral, mathématiquement parlant, Pascal, à moins que ce soit de la faveur ou de la géomancie, je ne sais pas comment ils s'y sont pris pour être élus. J'ai le droit de m'interroger. Mais pour revenir à ce que mes confrères ont dit tout à l'heure, que c'est la première fois qu'on fait l'expérience du Sénat, je veux bien applaudir. Si la haute cour de justice qui a été toujours consacrée dans notre constitution, on avait l'occasion de l'expérimenter ne serait-ce qu'une seule fois. Cette haute cour de justice avait pour obligation, fonction de lutter contre la corruption. Ce fléau-là qui gangrène notre pays et qui retarde notre pays. Pourquoi est-ce qu'à ce jour, on ne l'a jamais mise en place? Et aujourd'hui, quand tu reprends la constitution, la haute cour de justice n'y est plus. La Constitution a été expurgée de cette institution. Au nom de quelle logique? Quand on sait qu'à ce jour, tant en marché public, en initiative pour la transparence des industries extractives et dans bien d'autres domaines, même dans l'administration, au sein de la justice, ce fléau continue de gangréner la vie publique. Qu'on veut mettre le Sénat en place, d'accord, mais avant le Sénat, il y avait la haute cour de justice. C'est ça qui me confond en le fait que si on a trouvé que la haute cour de justice était inutile, moi aussi je dis
Le Sénat est inutile. Moi, je le dis.
D'accord. Oui, Jacques, votre appréciation par rapport au résultat donné par la CENI hier, c'est vrai, on a vu sur les 41, pratiquement, UNI prend 34. Est-ce que ça veut dire que le slogan est respecté? Quand on est uni, allez, on est fort. Et quand on est fort, on prend tout.
Et quand on
prend
tout,
on gère.
On gouverne.
Pascal, vous savez, nous tous, nous sommes ici, nous sommes des hommes. Nous avons passé par des astuces pour pouvoir courir peut-être nos épouses avant qu'elles ne soient nos femmes à la maison aujourd'hui. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons su où comment parler à notre femme avant qu'elle nous accepte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous sommes ici, certains parmi nous pourront dire que lui, il a pu conquérir le cœur de sa femme à travers sa beauté. D'autres vous diront que si lui, il a pu conquérir le cœur de sa femme, peut-être que c'est à travers son sourire. D'autres vous diront que non, ma femme, je l'ai peut-être épousée à cause de ses dents. Donc, ça dépend de chacun. C'est-à-dire que la façon dont nous tous nous approchons, je peux excusez-moi le terme, du gibier qu'on a conquis ou bien qu'on a amené à la maison. Et aujourd'hui, quand on parle de unir, quand on parle des autres partis politiques de l'opposition, et ceux qui ont gagné aujourd'hui, qui n'avaient pas, par exemple, la majorité de pouvoir passer. Pascal, il faut reconnaître que, quoi qu'on dise, dans presque toutes les démocraties, vous avez vu ce qui s'est passé avec l'élection de l'actuel secrétaire au niveau de l'Union africaine. C'est-à-dire que c'est des jeux de couloir que les gens font. C'est-à-dire que les gens vont, ils essaient de discuter. Donc, quand vous prenez ceux qui ont réussi aujourd'hui à avoir peut-être un siège, deux sièges, il faut reconnaître que les gens ont fait ce qu'on appelle le jeu de couloir. Sinon, les gens ne passaient pas.
Jeu de couloir, est-ce que ça respecte les normes également des élections?
En quoi, Pascal?
Puisque quand on parle d'élections, c'est cette liberté quand même de donner en quelque sorte son avis et son...
Oui, mais on a dit...
Et sa voix.
On a dit que certains partis n'avaient pas de majorité
pour
pouvoir passer. Donc les gens ont fait des jeux d'alliance pour pouvoir passer. S'il n'y avait pas ce jeu d'alliance-là, les gens ne passeraient pas. Donc il faut reconnaître que quelque part, c'est parce que les gens ont fait les jeux d'alliance finalement qu'ils ont réussi. Parce que quand on a suivi la plupart de ceux qui sont passés sur les médias ou bien sur les réseaux sociaux, bon, on se croirait que, entre-temps, moi j'ai cru que peut-être, ils ont dû peut-être avoir une garantie auprès de ceux qui avaient la majorité. Mais ce que nous avons compris que tout ce qui se passait, les gens n'ont pas fait effectivement les jeux d'alliance. Mais ceux qui ont réussi à faire ce jeu d'alliance-là, mais ils sont aujourd'hui au Sénat. Non, c'est pour vous dire que quelque part, en politique, quand on dit qu'on ne dit pas non en politique, c'est là que j'ai compris. Que tu peux pacter avec ton ennemi hier, mais aujourd'hui, devant les intérêts, mais on devient ami. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, il faut reconnaître que les gens ont noué des jeux d'alliance. Et aujourd'hui, ils sont là où ils sont. Donc, je crois que devant les intérêts des uns et des autres, on oublie souvent ce que nous appelons on met le peuple. Non. Devant ces jeux d'alliance, le peuple n'y est pas. Hein. Donc, c'est des individus. C'est ceux qui ont négocié qui réussissent. Là, on met le peuple de côté. Donc, ça, moi, je ne vois pas en quoi on peut, par exemple, incriminer quelqu'un qui est allé faire peut-être un jeu d'alliance avec quelqu'un et il a passé. Et c'est ce que nous avons vu. C'est ce que nous avons constaté. Parce que ceux qui sont passés, on a vu que ils n'avaient pas effectivement la majorité pour pouvoir passer. Mais parce qu'ils ont fait des jeux d'alliance et finalement, ils sont passés. J'ai suivi un au niveau de Dany qui félicitait même certains de l'avoir aidé à réussir. Donc, c'est pour vous dire que ce que nous sommes en train de dire ici, c'est pas un mensonge. Donc, c'est ce qui a été fait. Si lui ne l'avait pas dit, on ne saurait pas. Mais parce qu'il l'a dit, on sait effectivement que ce qui s'est passé.
D'accord. Oui, mais Urel, si tant est que nous nous basons sur cette question de jeu d'alliance tel que Jacques le dit, est-ce que finalement, UNI n'a pas choisi son opposition déjà au Sénat?
Vous savez, nous parlons de la gestion du pays. Et je souhaite vivement qu'un jour, nous quatre qui sommes ici fassions partie des plus hautes autorités en charge de gérer ce pays. C'est une question plus sérieuse que ce que nous sommes en train de dire. Pas pour banaliser nos propos, loin de là. Jeu d'alliance et tout. Je ne sais pas concrètement ce qui s'est passé, mais moi j'étais à la CENI hier. Puisque je devrais boucler le journal, je n'ai pas voulu envoyer un collaborateur, j'ai voulu assister moi-même à cette proclamation provisoire pour pouvoir me prononcer. Vous savez, Jacques a fini par un exemple de Daï. On peut parler de jeu d'alliance. Quand vous arrivez à Daï, ce n'est pas le parti au pouvoir qui est majoritaire. À Daï, là où Abbas Kaboua était député, ce n'est pas le parti au pouvoir qui est majoritaire. Le maire, tout ce que vous connaissez à Daï, je ne sais pas aujourd'hui comment on peut me dire qu'il y a eu alliance à Daï pour que Adi puisse avoir un sénateur là-bas. C'est leur base, c'est leur fief. Moi, je me dis plutôt qu'il faut du boulot, du grand boulot au parti au pouvoir pour conquérir Daï. Alors, qui peut me démontrer le contraire? Ça, c'est Daï. Le Togo, autrement, qui trouve son sénateur dans Yoto, c'est discutable. Vous prenez l'appelle-t-on, Bati, qui trouve qui fait de Golf et d'Agonivé son fief. On peut en parler. Donc, vous voyez, de ces exemples, il y a des cas où c'est difficile de parler de jeu d'alliance. Il y a des cas où on peut aisément discuter et parler de cela. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que, comme nous l'avons écrit dans notre article concernant ces résultats, quand vous prenez la région des savanes, la région de la Cara, la région centrale, le pouvoir n'a donné aucune chance à ces six partis et indépendants qui ont gagné les sept sièges. Il n'y a pas eu un, ni dans la région centrale, ni à Cara, ni dans les savanes. Donc c'est à partir des plateaux qu'on a commencé par constater que parmi les sept, ou parmi les six, s'il vous plaît, parmi les six, ils ont commencé par gagner des sièges jusqu'à Grand Lomé. Donc, jeu d'alliance, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un crime si c'est faisable, puisque nous sommes en politique. Mais Godson est d'un parti, je suis d'un autre. On peut discuter. En tout cas, je ne connais pas une règle qui interdit. C'est jeu, je n'en connais pas, à moins que quelqu'un maîtrise cela pour venir nous le dire. Je peux, à n'importe quelle heure, appeler Pascal qui est d'un autre parti, moi d'un autre. On discute, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, la finalité, c'est comment gérer notre pays. C'est ça qui est important. C'est pourquoi j'ai rappelé qu'il s'agit d'un cadre de gestion de la nation. De gestion de la nation. Pas comme nous gérons nos journaux ou bien nous gérons nos petites familles. Hein. C'est autre chose. Aujourd'hui, s'il y a une crise, chez moi, dans la Bina, c'est le sommet du pays qui est interpellé immédiatement. On ne va pas regarder une autorité de la Bina ou bien un représentant d'un parti politique de la Bina. Non. On dit, par exemple, dans un village, il y a crise, les gens se tuent là-bas. Immédiatement, de l'extérieur, c'est le président de la République qu'on regarde. On dit, mais comment vous avez mis en place la sécurité dans votre pays et ça s'enflamme comme ça, vous n'êtes pas... Oui, c'est ça, c'est la gestion du pays. On peut discuter, on peut s'entendre, on peut faire des calculs. On peut dire, je vous laisse un siège à Yoto, tu me laisses un siège à Daï, je vous laisse un siège dans Kloto, vous me laissez un siège dans Golf. Il n'y a pas de souci. L'essentiel est que nous puissions apporter le mieux-être pour la population. À mon avis, c'est cela, c'est discutable. Maintenant, le Sénat, on attend qu'il prenne corps et on va suivre les restes.
D'accord. Oui, mais Gosson, finalement, c'est quoi peut-être les perspectives ou l'avenir? Puisque c'est vrai, Jacques parlait entre-temps d'un saut dans l'inconnu par rapport à ce Sénat-là que nous sommes en train de mettre en place ou que le gouvernement ou les acteurs politiques et surtout les autorités sont en train de mettre en place. Finalement, c'est quoi peut-être les perspectives?
je parlerai de perspective le jour où, après la mise en place du Sénat, et peut-être jusqu'à la fin de son mandat, quand un projet de loi va quitter l'exécutif, il va passer par le Sénat avant d'aller à l'Assemblée, c'est un peu ça. Ou quand ce projet de loi va arriver au Sénat, le Sénat trouvera à redire au point de renvoyer le projet à l'exécutif. Là, je saurais que, donc ceux-là, ils sont venus pour faire quelque chose.
Quoi, vous en doutez?
Et comment? Je suis, sur ce plan, Gosson est un saint Thomas. Peut-être même plus qu'un saint Thomas. Je n'attends que d'abord notre profession. Que des preuves, pas des affirmations. Les preuves sauront me convaincre. Ceux-ci, ils m'ont démenti. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, aucune confiance.
D'accord. Urel, est-ce que vous avez confiance en l'avenir par rapport à la mise en place alors de ce Sénat?
Non, confiance en l'avenir, ce n'est pas le Sénat seul qui va déterminer notre mieux-être dans l'avenir. Gosson a essayé de situer la responsabilité du Sénat qui l'attend impatiemment. Mais là encore, il y a des pièges. Si tu te fies à ça seulement, il y a des pièges. On peut créer une simulation. Tu as fait comment? Donc, ce n'est pas un contexte qui va te prouver si le Sénat est efficace ou pas. On peut faire une simulation, on crée un projet bidon et arriver au Sénat, le Sénat renvoie. Non, bon, reprenez. Est-ce que tu sais que c'est une simulation? Tu vas applaudir que le Sénat fait son travail. Donc, pour attirer ton attention, que là encore, c'est plus compliqué. Dans plusieurs pays, on a vu ça. Et le Togo ne peut pas être épargné. C'est-à-dire que, ici, le pays, c'est le premier responsable. Si on veut qu'on avance, on va avancer. Si aujourd'hui, il a tous les moyens pour avoir les informations, il a tous les moyens pour évaluer tous ses ministres, il a tous les moyens pour évaluer l'Assemblée nationale, il a tout. Il peut décider, s'il veut qu'on avance, on va avancer. Pour ça, il n'y a même pas à discuter, parce qu'un premier responsable, ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est lui qui a tout le pouvoir dans ses mains. S'il décide aujourd'hui, par exemple, que la situation des Togolais en 2025, qu'en 2030, ça soit le jour et la nuit. Ça sera le jour et la nuit. Nous, quand quelque chose est bien, on va accompagner tous ceux qui sont initiateurs. C'est quand c'est pas bien qu'on est là pour critiquer, qu'on est là pour discuter, pour attirer l'attention des initiateurs, pour leur prouver que, bon, voilà, ça, vous avez telle initiative, mais au vu de ceci ou cela, non, c'est un peu dangereux. Il faut retrousser chemin. Mais quand on nous dit, par exemple, le Togo a l'ambition de bitumer à 80% son réseau routier, c'est un exemple que je donne, hein. Il n'a été dit nulle part cela. À 80%, le réseau routier sera bitumé d'ici 2030. Mais si le Togo a un réseau routier à 80% bitumé, je pense que tous les investisseurs du monde entier voudront s'installer chez nous. Donc, ce sont des ambitions comme ça que nous voulons. Il ne s'agit pas nécessairement de mettre en place les institutions, mais il faut que ces institutions-là travaillent. Ce ne sont pas des récompenses, non. À mon avis, Forni Asimbe ne doit rien à personne parce qu'il est né, il ne savait pas qui sera président un jour. Aujourd'hui, il est président. Donc, il est président parce que le pays a voulu qu'il soit président et il nous gère. Il gère le pays pour son développement. Donc, moi, à mon avis, il ne doit rien à personne et il doit nous gérer pour notre développement, pour notre mieux-être. On parle de tout, on ne va pas oublier la presse. Aujourd'hui, nous avons assez de difficultés. Maintenant, en réalité, nous, ce qu'on devrait chercher à savoir, c'est qu'est-ce qui est mis pour que dans le fonctionnement de la 5e République, dans le régime parlementaire, les médias puissent mieux travailler avec les moyens qu'il faut. La dernière fois, vous savez, c'est une élection qui vient de se passer. Alors que dans les dernières ententes, il est dit que les médias soient subventionné en période électorale. C'est ce que notre ministre a fait pour qu'on bénéficie de ce financement-là lors des élections. Mais pourquoi cette élection sénatoriale, pourquoi les médias ont été ignorés? On a été carrément ignorés. Nous n'avons pas travaillé avec la CENI. Cette aide-là a disparu. Bon, même pour nous déplacer, aller à la CENI et écrire après, publier, c'est à nos frais et tout. Pourquoi on a été... Voilà des questions très intéressantes. Pourquoi on nous ignore alors que des choses ont été écrites sur papier que nous devons bénéficier de D'accord. ceci ou cela.
D'accord. Jacques, oui, mais comment vous entrevoyez l'avenir après peut-être l'installation de, du Sénat?
Vous savez, Pascal, je suis optimiste pour mon pays. Je ne vais jamais souhaiter le malheur pour mon pays parce que je vis dans ce pays, c'est mon pays. Je n'ai plus autre nationalité et je n'ai plus aucune autre destination. Et chrétien que je suis, je ne voudrais pas prédire un malheur par rapport à tout ce qui va se passer demain. Mais comme je l'ai dit, c'est un nouveau format que nous sommes en train d'adopter. Et c'est un nouveau format parce qu'on ne l'a pas encore expérimenté. Et comme comme le disait tout à l'heure Godson, et comme je l'avais dit également tout au début, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. C'est-à-dire que attendons que ce Sénat-là s'installe et nous allons voir la conjugaison et du Sénat et de l'Assemblée nationale, comment ces deux institutions-là vont fonctionner pour pouvoir également aider, c'est-à-dire nos ministères, aider effectivement nos institutions à pouvoir avancer. Parce que ce qu'il faut reconnaître, ce n'est pas le Sénat qui va développer le pays. Ce n'est pas l'Assemblée nationale non plus qui va développer le pays. Mais c'est les ministères que nous avons, les dotations qu'on donne souvent à ces ministères pour faire les travaux dans le pays qui va déterminer effectivement la vitalité effectivement des besoins que les populations attendent de nos autorités. Parce que vous êtes sans savoir, on va également installer un président du conseil. Le président du conseil sera installé par les deux chambres. Également, l'élection du président également de la République sera également installée par ces deux chambres. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une nouveauté pour le Togo. Parce que tous les Togolais s'attendent. J'ai croisé un monsieur qui me disait la fois dernière que lui prie Dieu, que Dieu lui donne seulement la santé pour voir comment les choses vont se passer. Que est-ce que certains vont laisser des pouces pour aller vers d'autres pouces. Donc, lui, il veut vraiment vivre ça. Donc, vous voyez que c'est que les gens attendent pour voir comment les choses vont se passer. Donc, ne soyons pas négatifs par rapport à ce qui va se passer demain. Soyons positifs et demandons à ce que les choses se passent bien pour nous, citoyens que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez, Pascal, vous écoutez nos compatriotes, les gens disent ils veulent vivre mieux. Ils veulent vivre décent. Ils veulent que les besoins vitaux auxquels ils font face, que ces besoins-là soient satisfaits par les autorités. Donc, prions pour que ces institutions qu'on est en train d'installer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que ce n'est pas ces institutions-là qui vont booster l'économie de notre pays, mais il faudrait que ces institutions-là accompagnent effectivement le pays vers son développement. Donc, sois optimiste par rapport à ces institutions qui vont s'installer demain, et voir comment ces institutions vont contribuer à la vitalité de notre démocratie, à la bonne marche, effectivement, de nos institutions. C'est ce que nous voulons. On ne voudrait pas que demain, comme Gonçon l'a dit, qu'on revienne encore dans ce studio pour dire « Ah, le Sénat qu'on a installé, si on savait, il ne fallait pas le faire. Le nombre de députés qu'on a augmenté, si on savait, il ne fallait pas le faire. » Mais que nous sommes positifs par rapport au compte rendu que nous aurons à faire après la fin, effectivement, du mandat de ces sénateurs et la fin du mandat effectivement de ces députés.
Et s'il y a les couloirs, comme les uns et les autres l'ont dit, si vraiment il y a eu des couloirs, je salue le fait que ces couloirs n'aient pas permis d'encenser certains. Vraiment, l'échec de certains candidats à ces sénatoriales, moi personnellement, ça m'a réjoui. Il y avait tellement de faux. Il y avait tellement de gens dont le passé est teinté de noir et de rouge que vraiment, si ces gens-là accédaient à ce poste de sénateur, parmi eux même, il y en a même des journalistes qui étaient candidats, vraiment des gens vraiment qui ne devrait même pas passer.
Le journaliste a passé.
Je n'ai appelé le nom de personne. Chacun saura si son passé était bon, son passé était
bien. Non, le journaliste a passé.
Donc, merci pour ceux qui ont joué pour les vrais couloirs. Et se sont renseignés sur les personnes qui devraient accéder.
D'accord, merci. On va quitter le sujet, le sujet des sénatoriales. C'est vrai, dans la semaine, on reviendra là-dessus. Mais on va s'intéresser à cet autre sujet, c'est par rapport à la nomination du colonel Okura Agadazi comme nouvel ambassadeur du Togo en France. C'est vrai, Dawson, on sait que c'est un poste que le ministre de la Sécurité cumulait depuis sa nomination, même d'ailleurs au ministère, et en tant qu'ambassadeur alors de la France, du Togo en France. Et cette nomination de colonel Okura Agadazi, comment vous l'avez apprécié,
Pascal?
Oui.
Et il y a demain. Les gens sont-ils finis au Togo?
Tu parles caviar aujourd'hui.
Qu'est-ce que tu crois que maman que tu as au Donc, attends. Sans avoir d'a priori sur la personne, même au sein du Parti Uni, il y a plein de têtes de la jeunesse. Mais pourquoi on prend toujours les mêmes pour recommencer, Pascal? Excuse-moi, Gosson, personnellement, j'avais fait de la gestion de Okura quand il était ministre de l'Agriculture mon cul-dent. Au point que ma fille de 5 ans, papa, c'est qui Agadazi? C'est qui Agadazi? Attendez, le dernier en date, c'est par rapport à l'inauguration du port de pêche. J'ai encore le dossier sur ma table. Comment tu es autorité contractante, tu n'es pas PRMP. On fait un appel d'offres. On a tranché que telle société ne répond pas. Et maintenant, du haut de ton poste de ministre, Tu écris au directeur général de l'ANP pour contester la décision du comité de règlement des différends. Et c'est cette même personne qui aujourd'hui sera la vitrine du Togo en France. Je le répète encore. Et à demain. Je suis dépassé.
D'accord. Oui, mais Jacques, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, le débat s'est tellement posé. On se dit, on connaît le parcours du colonel Okura Agadazi. Et donc, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des jeunes au sein même du parti pour représenter le Togo en France?
Vous savez, Pascal, on n'est pas dans les secrets de Dieu, de celui qui nomme les ministres, celui qui nomme les ambassadeurs. C'est le président de la République. C'est lui seul qui détient la discrétion de ce qu'il veut, ce qu'il nomme. Mais comme le disait tout à l'heure Godson, nous sommes là pour analyser. Et nous sommes là également pour donner souvent nos points de vue. Parce que quand vous prenez par exemple la diplomatie togolaise, vous allez actuellement au niveau du ministère des Affaires étrangères, vous trouvez des jeunes qui ont fait l'ENA, qui ont fait la diplomatie, qui pouvait vraiment occuper ce poste. Parce que quoi qu'on dise, M. Agadazi, le colonel Agadazi, il fut d'abord colonel de l'armée, il fut directeur, je crois, de la police, non? Il fut ministre, il fut directeur de l'ANSAT. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup. À un moment donné,
quand même... Son expérience a joué?
Non, arrivé à un moment, quand même, il faut qu'il se repose, Pascal. Il pouvait se reposer. C'est-à-dire que des fois... Vous savez, quand on vous invite ou bien on vous appelle à certains postes, celui qui vous appelle, il faut avoir le courage de lui dire, Monsieur le Président, vraiment, merci pour la confiance que vous avez placée en moi, mais compte tenu de ci et ça, toujours pour prendre soin des enfants, des petits-enfants.
Jacques, qu'est-ce que vous pensez que nous avons cette culture?
Mais il faut, non, à un moment donné, il faut avoir quand même cette culture. Il faut avoir la culture de savoir se reposer. Parce que Pascal, quoi qu'on dise, à 60 ans déjà, il y a des choses que vous ne pourrez plus. Vous ne pouvez pas faire certaines activités à l'âge de 40 ans ou bien 45 ans. Vous ne pouvez plus. Et quand vous prenez, par exemple, là où il va, c'est la France. Je ne connais pas son âge. Mais vous savez, avec les aléas climatiques et tout ça, ce n'est pas facile. Je ne dis pas qu'il ne peut pas. Mais quand même, à un moment donné, il faut quand même permettre à cette jeune génération qui sortent des écoles, qui ont fait par exemple l'ENA, qui ont fait la diplomatie, de pouvoir également s'exercer. Comme je l'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui a milité à sa nomination. Je ne sais pas qu'est-ce que le président de la République a vu en lui, en le nommant à ce poste. Mais parce que vous savez, ce n'est pas seulement la France qu'il va gérer. Hein. Vous rappelez quand le colonel Madjouliba était ambassadeur, il gérait beaucoup de pays. Donc je ne sais pas si ça sera la même chose. Vous voyez qu'il sera vraiment fatigué. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut quand même renouveler, permettre également à la jeunesse de pouvoir également s'exercer. Parce que vous allez à l'école, Pascal, les gens font la diplomatie. On ne les utilise pas. Finalement, ils partent à la retraite. Quand vous allez au niveau du ministère des Affaires étrangères, elles sont nombreuses, et ils sont nombreux également, qui ont fait la diplomatie, qui peuvent valoir effectivement leur connaissance au niveau de ces chancelleries. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Comme je l'ai dit, c'est seulement le chef de l'État qui a cette discrétion de savoir qui nommer et qui peut représenter le pays où. Bon, mais je crois que, personnellement, s'il fallait quand même interroger les Togolais pour dire qui il fallait aller amener là-bas, vous allez voir que, comme l'a dit quelqu'un, que 70% des Togolais ne seront peut-être contre, quoi.
D'accord. Et c'est vrai, vous avez titré sur le sujet. Colonel Ourokoua Gadazi, nouvel ambassadeur du Togo en France. On a peut-être le droit de savoir qu'est-ce qui a milité en faveur alors du colonel pour être aujourd'hui l'ambassadeur du Togo en France.
Mais un ambassadeur, comment est-ce qu'on le désigne ? Son Excellence. C'est-à-dire qu'il est le représentant d'un pays dans un autre pays. Et le pays de son origine, il appartient à une idéologie. On ne peut pas blaguer avec la personne qu'on doit envoyer dans un pays quelconque pour représenter son pays. Vous pouvez envoyer quelqu'un quelque part, il va préparer depuis là-bas un coup d'État, il va vous dégager. Mais pour Jacques, c'est comment ça se passe? Peut-être qu'il a voulu raisonner d'une façon ou d'une autre pour contourner les sujets. Un colonel vient de remplacer un colonel à l'ambassade du Togo en France. Et Jacques ne va pas dire qu'il ne comprend pas. Ce n'est pas une question de les gens ont fait l'ENA. Ce n'est pas une question de Ourokoua Gadazi a été directeur de l'ANSAT, il a été ministre. Non! Il a été tout ça. Il est militaire, mais est-ce que cela l'empêche à représenter le pays et jouer valablement le rôle qu'il doit jouer là-bas? Non. Cela ne l'empêche. Ce n'est pas parce qu'il y a des diplômés qu'on va détester la personne physique de Ourokoua Gadazi. Non. Celui qui nomme, comme tu l'as dit, Jacques, celui qui nomme, c'est pourquoi il a nommé. Sur ce plan, on ne badine pas. C'est la représentation d'un pays. Il devient son excellence. Et à partir de la nomination du colonel Agadazi, le ministre Madjouliba cesse d'être l'ambassadeur ministre. Bon, comme lui-même, il a l'habitude de signer ses courriers ambassadeur ministre. Il n'est plus ambassadeur. L'essentiel, c'est qu'il nous facilite nos mouvements vers la France, vers les autres pays, puisque quand l'autre était là-bas, il coiffait. Beaucoup de missions. Il n'était pas que ambassadeur du Togo en France, mais il assumait beaucoup de responsabilités vis-à-vis des autres pays, si je ne me trompe. Donc, laisser le colonel aller jouer son rôle en faveur du Togo, qu'on puisse se retrouver, nous quatre ici, qu'on puisse se retrouver un jour à l'ambassade du Togo en France, qu'on puisse lui dire bonjour, mais qu'il assume très bien ses responsabilités. On n'envoie pas n'importe qui dans n'importe quel pays. Surtout, le Togo envoyer quelqu'un en France doit réfléchir mille fois. C'est-à-dire, quand je dis le Togo, le président de la République, envoyer quelqu'un en France. Et au regard de toutes les tensions qui existent aujourd'hui entre la France et pratiquement tous les pays africains, mais si Fornia Simbe doit envoyer un ambassadeur en France, ce n'est pas en une journée qu'il va prendre la décision. Ce n'est même pas en un an qu'il va prendre la décision. Il va réfléchir mille et une fois avant de décider de qui va nous représenter en France. Sinon, la France, c'est un pays. Hein. Tout le monde peut aller là-bas préparer ce qu'il veut.
D'accord. Mais Pascal, vous nous dites que c'est stratégique, cette nomination?
Non, moi je ne crois pas que c'est stratégique. je serai peut-être à la place de Agathe Azi que je vais regretter cette nomination.
Comment ça?
Non. Ah oui, bien sûr. Mais écoutez, quand on compare la SAT à l'ambassade de France, c'est le jour et la nuit. Disons-nous la vérité, c'est le jour et la nuit. J'ai parlé tout à l'heure de son âge, Pascal. Pour qui ceux qui voyagent en Europe, mais c'est pas facile que à l'âge de monsieur le colonel Ouro à Gadazi qu'il aille encore porter des velours là-bas pour pouvoir sortir. Et il a oublié de se chauffer chaque nuit. Non, c'est pas normal.
Non.
Parce que si c'était au Togo, il pouvait aller, par exemple, à Sokodé, chercher les fagots de bois. Si c'est l'Armata, il peut se chauffer, il n'y a pas de souci. Mais là-bas, c'est autre chose. Je sais pas si vous comprenez. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Autre chose est de vérifier pour voir est-ce que Ouro Agadazi, lui-même, dans son âme et conscience, est-ce qu'il est partant pour aller en France? Est-ce qu'il est partant pour aller là-bas? C'est des choses qu'il faut voir. Parce que, comme je l'ai dit, Pascal, être directeur de l'ANSAT et vous laissez les sacs de maïs pour aller gérer la neige là-bas.
Et du riz.
Mais c'est autre chose. Hein. Non, disons-nous la vérité.
Non,
ça frise l'humour.
Non, c'est pas affaire d'humour. Parce que, Pascal, moi je ne peux pas quitter.
Oui, Jacques est sérieux en le disant.
Oui, je ne peux pas quitter. Comme le disait un feu premier ministre dans ce pays, quitter son ADEME et aller vivre à elle, c'est pas facile. Vous croyez qu'Agadazi laissait le maïs, laissait le riz, laissait le gombo ici, aller rester dans ce froid-là? Vous croyez que si on le posait vraiment réellement la question,
est-ce que vous savez pour combien de temps Agadazi est envoyé en France?
Non, même
il peut être envoyé là-bas pour un an.
Même si c'est un an, il a déjà perdu l'ensemble.
Je voudrais qu'on se prononce sur cette autre nomination. Et c'est vrai que c'est plus au Bénin, la semaine dernière, bien sûr, mais ça concerne plus notre compatriote Angela Akeleburu, qui est réalisatrice. On a connu même d'ailleurs ses œuvres cinématographiques au pays ici. Et la semaine dernière, on nous a annoncé, bien sûr, qu'elle est la directrice, qu'elle a été nommée en Conseil des ministres par justement le président de la République comme directrice de la société de radio et télévision du Bénin. Et oui, ça a fait vraiment aussi des débats. Gosson, d'aucuns disent que, mais est-ce que ce n'est pas un talent que nous donnons encore à un autre pays comme cela?
Je répondrai avec humour, mais en paraphrasant. Pas Kabwa, mais Kabwa. Si quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Si dans son pays, on ne reconnaît pas ses talents, ben, d'autres pays sont libres de le reconnaître et de la solliciter. La personne a de la culture. Elle a du génie en elle. Mais au Togo, je n'en ai jamais entendu parler. Il a fallu que ce soit dans un autre pays qu'on la propulse au devant de la scène culturelle. Je ne peux que dire bravo à celui-là qui a eu la vista de lui mettre le grappin dessus. Bon vent à elle.
Elle était où?
D'accord.
Oui.
Oui,
Pascal, je ne suis pas entièrement d'avis avec Godson. Vous savez, de toutes les missions qui existent dans tous les pays, on peut rentrer, sortir. Quand vous allez dans les hôpitaux au Togo, vous allez dans les ministères, vous allez même à la présidence de la République, partout où vous irez, vous trouverez des compétences étrangères qui sont employées. Je ne veux pas citer des noms ici. Vous savez, vous connaissez beaucoup de personnes, des compétences étrangères qui sont là. C'est de la même façon, vous trouverez des Togolais qui occupent de hautes fonctions en France, qui occupent de hautes fonctions aux États-Unis, qui occupent de hautes fonctions au Bénin. Il y a des Béninois qui occupent des postes aussi. Allez au CHU Sylvanus Olympio. Vous allez retrouver à la chirurgie des Gabonais, vous allez retrouver des Camerounais. Plein. C'est des compétences. Alors, à notre sœur, félicitations. Peut-être qu'elle a eu à faire des propositions. Elle a fait montre d'une intelligence extrême dans le domaine. C'est normal que le pays la sollicite. Le Togo aussi peut solliciter
Mais pourquoi le Togo ne l'a pas fait? C'est de ça qu'il s'agit.
Non, c'est une Togolaise, vous dites.
Justement, c'est une Togolaise.
Mais il faut aller chercher, s'il vous plaît, en réalité, hein, quand ça se passe ainsi, il faut chercher à voir comment la personne a évolué et sur quel sujet, généralement, elle travaille. On dit, par exemple, journaliste spécialiste du Gabon, journaliste spécialiste de tel pays. Et lorsqu'il y a une crise dans ce pays-là, c'est vous qu'on sollicite pour répondre à certaines questions. Il faut chercher à voir concrètement quels sont les domaines d'intervention ou les domaines de maîtrise de notre concert. C'est très important. On ne sort pas comme ça pour dire, par exemple, Golson vient être le directeur, bon, le président de la ACO Bénin. Non, c'est en fonction de ses compétences, c'est en fonction de son CV, c'est en fonction de ses domaines de maîtrise. Je pense
d'accord,
que c'est ça.
D'accord. Sinon, oui, Jacques, la question se pose parce que déjà, on voit l'état dans lequel se trouve notre télévision nationale. On veut faire, même d'ailleurs, on fait des efforts pour que déjà la télévision change même de statut pour devenir office. Et il faut quand même des gens compétents quand même pour y arriver. Et je ne sais pas si c'est cette compétence qu'on a trouvée de l'autre côté, dans notre consoeur ou notre compatriote. Mais pourquoi se fait, enfin, comment se fait-il que cette même compétence n'est pas exploitée ici?
Non, il y a un adage en Évé qui dit que le charlatan n'est pas reconnu par ses propres pairs.
Comme quoi on est
voilà, prophète chez soi. Prophète chez soi. Donc c'est pour vous dire que il faut reconnaître que la sœur, moi je l'ai connue dans la série
Ahoué,
voilà. Et puis pour la voir plus, c'est quand le Premier ministre Madame Dogbé l'a reçue.
Tout à fait.
C'est là que finalement tous les Togolais ont su que effectivement c'était elle. Donc quelque part, j'ai lu un peu son parcours. Mais je n'ai pas vu un parcours de journaliste dans presque son parcours, mais le parcours dont elle fait mention, c'est le cinéma.
Tout à fait.
Et puis vous savez actuellement, quand vous prenez par exemple le Bénin, vous savez que Patti Talon est en train de presque vouloir rapatrier la plupart des Béninoises et Béninois qui sont un peu à l'étranger pour pouvoir revenir. Surtout sur le patrimoine au Bénin, parlant du cinéma, parlant de l'art et tout ça. Et je crois que c'est dans ce sens-là que le président Patti Talon voudrait que notre sœur puisse l'aider à valoriser plus la culture béninoise au niveau de la chaîne nationale. C'est ce que moi j'ai compris. Et comme elle faisait un bon cinéma ici, je crois que c'est en ça que peut-être que Patti Talon a détecté un talent pour pouvoir valoriser la culture béninoise. Et pour parler de la culture béninoise, valoriser une culture, c'est toujours les médias. Parce que s'il n'y a pas les médias, vous ne pouvez pas valoriser la culture. Donc je crois que peut-être c'est à partir de là que peut-être que le président Talon veut valoriser la culture béninoise en la nommant pour pouvoir aider effectivement à faire voir le Bénin à l'étranger par rapport à sa culture.
D'accord. Nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat et donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent aussi à entrer en ligne. C'est sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75 et aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir dans l'émission Club de la Presse et également intervenir sur les sujets débattus ici, bien sûr, au Club de la Presse. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Nous avons notre premier auditeur en ligne. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Je vais bien, cher.
C'est monsieur Nyamavo.
Nyamavo.
Allez-y.
Oui, je remercie d'écouter concernant la nomination de Ourafoura Gadazi, ambassadeur. C'est une bonne analyse. Puisque depuis ce monsieur était à l'ANSAT, il a commencé par accueillir un ramassant des garis. les crayons commençaient par voir des flambées. Depuis qu'en certaines lignes, les céréales n'ont connu que des flambées. Je profite de l'occasion pour féliciter fort. Et si c'est une stratégie pour égarer certains, pour qu'on sente l'amélioration dans le panier de la ménagère. Puisque tout ce qu'il fait, c'est des efforts. On ne sent pas. Imaginez un peu, pour un courant d'attaché, aller rester à l'ambassade et laisser le contrôle dans ça. Et si on place quelqu'un qui fait bien la politique de foire là-bas, je crois que les Togolais ne vont plus crier, ils ont faim. Et aussi, comme d'aucuns le disent, c'est un colonel. Peut-être aussi c'est pour jouer la diplomatie. Je ne sais pas s'il faut rentrer dans la RS ou pas. On va essayer de jouer cette diplomatie là-bas. Chapeau à fort, surtout pour côté en tête là. S'il nous trouve un bon directeur de sécurité alimentaire au Togo, pour que les Togolais puissent pousser le coup. La Sénat, oui. On voit aussi des oligarques qui sont en train d'être égarés là-bas, même les députés. Si c'est une stratégie pour le président de la République, bon vent à lui, on veut voir que la situation des Togolais soit améliorée.
D'accord. Merci, merci beaucoup, M. Nyamava, pour votre intervention. Bonjour, les amis. J'aimerais dire à mon frère Gosson que le vin est déjà tiré. Attendons voir ce qui va se passer dans les jours à venir. C'est budgétivore et ce que Gosson vient de dire. Prions qu'ils vont revenir en arrière dans les mois à venir. Après l'expérience, le peuple est pris en otage. Concernant les résultats, le peuple n'est pas étonné. Tout est dans la main de Unir. Le peuple est au bout du gouffre. Et bonne émission, c'est M. Nyamaku. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Pascal.
C'est Abdel.
C'est Abdel.
J'espère que vous allez bien.
Oui, je me porte bien.
D'accord, allez-y.
J'espère que vos collègues journalistes sur le plateau également se portent bien.
Tout à fait.
OK. Concernant les sénatoriales, puisque c'est une première expérience, l'essentiel pour les Togolais, c'est de connaître, de maîtriser le rôle du Sénat. C'est pourquoi je vais vous exhorter, M. Pascal, à inviter une autorité compétente à la matière pour édifier sur vos antennes le peuple sur le rôle. C'est après que nous allons apprécier si le Sénat, l'apport du Sénat, au développement et à la politique togolaise, est nécessaire ou pas. Puisque Godson vient de comparer le Sénat et Togolais au Sénégal, et il a raison. Mais expérimentons-le et connaissons le rôle et après on va apprécier. Alors, vous avez parlé aussi de la nomination de Agadazi. Il faut s'interroger d'abord. Comment est-ce qu'on nomme un ambassadeur? Je pense que c'est après proposition du ministère des Affaires étrangères et le président nomme. Alors, ça veut dire que le président fait confiance à Agadazi. C'est quelque chose de droit. Quand on vous fait confiance, le président, la personnalité, la première personnalité togolaise vous fait confiance et vous nomme, c'est important. On ne va pas l'estimer ou bien dire que c'est une façon de l'égarer ou c'est une façon de faire la promotion, c'est parce qu'il a été utile à ce poste et on l'a nommé. Alors, concernant notre sœur qui a été nommée par le président Patrice Hollande, je ne sais pas pourquoi ça fait un débat. Nous devons avoir des sœurs ou des frères dans d'autres pays qui occupent d'autres postes. Ce n'est pas obligé que le Togo, ce n'est pas une obligation que le Togo arrive à détecter tous ces talents. Les d'autres talents doivent faire leur expérience ailleurs aussi. Cela ne doit pas faire un débat. Si le Togo n'a pas nommé cette dernière et qu'elle a été nommée ailleurs, c'est sa chance. C'est sa chance. D'accord. Peut-être que dans le futur, elle travaillera. Elle va nous permettre de connaître, de la connaître plus et le Togo va la rappeler un jour, on ne sait jamais.
D'accord.
Donc cela, tout cela ne doit pas faire objet de débat. Il faut mettre ça dans la politique pour dire voilà, ainsi de suite. Monsieur Pascal.
Oui, merci beaucoup.
Donc, félicitations à vous tous.
Mais merci beaucoup, Abdel, pour votre intervention. Bonjour à vous tous. Et tel que nous nous plaignons de la nomination du colonel ambassadeur en France, d'autres s'en réjouissent. Aussi, tel que nous nous réjouissons de la nomination de Dame Akeleburu au Bénin, des Béninois peuvent aussi s'en plaindre en disant qu'il y a des Béninois plus compétents qu'elle. C'est Georges qui nous écrit depuis Ségbé. Allô? Allô, bonjour.
Oui, Colonel FM, bonjour.
Oui, Océni, comment vous allez?
Le message de l'amour.
Oui, allez-y.
Je me porte très bien comme un ange ciel.
D'accord, allez-y.
Bonjour, le plateau. Je suis dans l'espoir aussi que, comme un homme ambassadeur des auditeurs, hein, je n'ai pas souhaité bonne chance à Oumar Bakassi, l'ambassadeur. Et que Dieu bénisse le Togo. Merci et bonne émission.
D'accord, merci beaucoup Océni pour votre intervention 90-86-35-35. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Ça va bien.
C'est Johannes?
Oui.
D'accord, allez-y.
Concernant la nomination de l'ambassadeur d'abord, comme Jacques l'avait dit, c'est pas pour rien qu'on ne nomme que des militaires là-bas. Donc, il faut comprendre quelque chose. C'est une question de quelqu'un qui maîtrise les rouages. Parce que dès qu'on parle de pays étrangers, il y a question d'espionnage, tout. Il y a même une question d'espionner, de quelqu'un qui peut espionner des gens qui sont contradictoires au régime en place. Il faut quelqu'un qui, de poigne, qui peut les contrecarrer là-bas. Donc, c'est pas pour rien qu'on ne nomme que des militaires. Donc, Fon Yassingbé n'a qu'à faire d'un quelconque diplômé de l'ENA, tout ça là. De toute façon, nous, ce genre de choses ne nous étonne plus. Voilà.
D'accord.
Et pour finir, concernant la nomination de notre sœur au Bénin, vous savez, ce genre de nomination ne peut faire jaser que dans un pays comme le Togo. On sait que d'habitude, les talents ne sont pas reconnus. À moins que tu sois un talent manipulable, bien que tu sois un talent qui soit, c'est-à-dire qui soit dans leur chambre et non dans l'antichambre. Il faut que tu sois dans leur chambre pour pouvoir être reconnu, que ton talent soit reconnu. Si le Togo était un pays qui valorisait ses talents depuis, la nomination de lanceur n'allait même pas faire parler. C'est parce qu'on se connaît bien au Togo, c'est pourquoi ça fait parler. Merci, bonne journée.
D'accord, merci beaucoup Johannes pour votre intervention. Bonjour Pascal, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne émission. Je suis heureux de suivre le Club de la Presse à Badou. Ici à Badou, nous avons un souci avec la musique qui interfère par moment. Prière de voix à la technique. Alors pour y remédier à cela, justement, je souhaite bon courage aux journalistes. C'est Hervé qui nous écoute depuis Badou. Oui Hervé, votre doléance est prise en compte. Nous travaillerons à cela. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Votre nom, c'est
Monsieur Bessan.
Monsieur?
Bessan.
Monsieur Bessan.
Oui, oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Badago.
De Badago, allez-y.
C'est pour la nomination du colonel. Je pense qu'il y a des sous-officiers au Togo qui peuvent remplir cette mission à l'étranger. Et qu'on peut fatigué. Il peut aller se reposer. Je vous en prie. On ne peut pas garder les mêmes personnes depuis notre naissance. Hein. Toujours les mêmes personnes. Et quand mon frère l'a dit que c'est un quoi, il n'y a pas de jeunes officiers au Togo pour remplir cette mission d'enquêteur à l'étranger. Merci à vous.
D'accord, merci M. Bessan pour votre intervention. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Oh, bon, pas la grâce. Hein.
C'est Évangéliste Senghor.
Voilà.
Allez-y.
Bon, tout d'abord, je tiens à donner à quatre vêtres à mon frère Djakouti qui vient de faire des analyses très importantes. Vous savez, c'est vrai, nommer un ambassadeur à la France, c'est une question de confiance. Voilà, maintenant, nous crions disant que nous sommes fatigués, nous voulons rentrer dans l'AES. Est-ce qu'il y a une confiance encore là-bas? Bon, vous savez, il y a certaines choses où
le papa Agadazin, qui était directeur de la police, ministre, quoi. Il arrive des temps, je me dis, non, est-ce qu'il n'y a pas, dans l'Union, il n'y a pas les jeunes qui ont fait la diplomatie. Mais voilà qu'aujourd'hui, que les jeunes de l'Union, là, vont dire que Fort Yassine est en train de les bloquer. C'est ça le problème. Bon, je m'arrête ici.
D'accord.
Deuxièmement, il y a un de vos confrères là qui disait que Fort n'a rien à personne, que pour lui, c'est le développement du pays. Moi, c'est pour vous dire ici que étant un évangéliste, je ne me suis pas levé un petit matin pour être évangéliste. C'est un appel. Aucune autorité n'est instituée si ce n'est pas Dieu qui l'a dit de rester là-bas. Sinon, on devait le foudre en l'air depuis. C'est Dieu qui l'a placé là-bas. Donc, c'est pour dire que fera beaucoup de choses à la population togolaise. Je le réitère encore. Parce qu'il est là à cause de la population. Il est là. La population doit manger à leur faim. Sinon, on ne peut pas être un journaliste pour dire que non, lui n'a pas, il ne peut pas, lui n'a rien à personne, il doit rien à personne. Non. Il faut qu'on change ça. C'est Dieu qui l'a laissé là-bas et il doit prendre soin. Prenons à côté le Burkina avec Ibé. Ce que ce monsieur, ce jeune de moins de 40 ans, qui est en train de satisfaire les Burkinabés. Aujourd'hui, tous les Burkinabés sont en train d'applaudir. Il dit non, il peut rester là-bas jusqu'à mort, jusqu'à sa mort. C'est ça le problème. Que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse, vous bénisse également.
D'accord, et que Dieu vous bénisse aussi, Evangeliste Senghor. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Maouto, comment vous allez?
Ça va, bonjour, monsieur Maouto. Ma question à tout le monde, est-ce que le Sénat va faire rentrer l'argent dans le cadre de l'État togolais?
Monsieur Maouto, oui? Vous nous avez suivi?
Bien sûr, parce que les gens disent que les gens...
Si, vous nous avez suivi. Oui, si vous nous avez suivi. Oui, monsieur Maouto, excusez-moi, si vous nous avez suivi, vous verrez quand même que chacun de nous, enfin chacun des confrères sur le plateau...
Moi, je ne vois pas les problèmes du Sénat.
Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Dites-moi ce que vous pensez.
Quelque chose va nous coûter encore aux Togolais. On dit des demandes, cela. C'est que moi, je ne comprends pas. Bonne émission.
D'accord, merci, monsieur Maouto, pour votre intervention. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, papa Sibiti.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Oui, papa Sibiti, je vous écoute. Bonjour.
Allô? Allô?
Décidément, il n'a pas de retour. Allô? Papa Sibiti, nous vous écoutons.
Bonjour, mon directeur.
Oui, nous vous écoutons, papa Sibiti.
Ouais. Et je voudrais vous remercier. Et remercier, féliciter mon fils et directeur. Sylvestre Béni.
Non, c'est Sylvestre qui n'est pas là.
Les Togolais doivent aller à l'essentiel. Vous savez, rien n'arrive par hasard. Dieu sait ce qu'il fait. Vous êtes là-bas par la volonté de Dieu. Nomination, comment, prions Dieu que ce que Dieu a voulu mettre à leur place satisfasse les besoins des Togolais et des Européens. Et c'est ce que je voudrais dire. Que Dieu vous bénisse. Les choses qu'on a, c'est comme nous sommes jaloux des gens quand on les nomme à pression. Et si Dieu n'a pas voulu, ils ne seront pas là-bas. Merci beaucoup.
D'accord, merci beaucoup, papa Sibiti. Nous ne sommes jamais jaloux de qui que ce soit. C'est juste notre travail que nous faisons. C'est l'analyse également lors de l'actualité. Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô?
Allô.
Oui, bonjour, donc, madame Essie.
C'est la dernière.
madame Essie. Bon,
oui, vous avez débattu de beaucoup de choses. Oui, maintenant, bon, je veux savoir là, pourquoi le président nous fait ça? Il nous triture, comment on dit ça? Il nous saigne, c'est-à-dire, on est mal, quoi. Pourquoi il nous fait ça? On n'a pas besoin d'alterner et de démocratie. On en a besoin aussi.
Madame Essie.
On a besoin.
Madame Essie.
Oui.
Oui, mais vous avez dit que nous avons parlé de beaucoup de sujets. On a parlé des sénatoriales.
Oui, tout on a ça, il nous a organisé les sénatoriales. Ça existe dans la C92, il paraît. Mais ça existait depuis. Maintenant que le mandat, son mandat est fini depuis, non? On a dit un mandat de 5 ans, 10 ans, qui doit passer la main pour que le pays se développe. Et pourquoi il a fait 20 ans? Il paraît que ça finit, je crois que ça finit en mars là. Les 20 ans là, au moins, finissent en mars. Et maintenant, il bloque le pays, il nous organise des sénateurs, des machins. Pourquoi il nous fait ça? Hein? Pourquoi il nous fait ça? Et maintenant, il nomme les mêmes personnes aux mêmes endroits, ça cumule. Agadazi nous a fait le compte de l'ANSAC, il nous a fait le bilan une fois. Aucun parmi eux, les gouvernants ne nous ont jamais fait l'état de la nation, même le président ne nous a jamais rien fait. Pour qu'on en arrive là, qu'on soit appauvri, Agadazi nous a affamés. Il nous affame parce qu'on achète un pays agricole, essentiellement agricole, on achète le bol de maïs à 1100 francs par moment. Pourquoi? Et on le nomme encore à l'étranger, aux frais de la princesse. Pourquoi ils nous font ça?
D'accord.
On a besoin d'alternatives.
Merci, merci, oui, merci beaucoup, madame Essi, pour votre intervention. Je pense que vous êtes la dernière auditrice hein, pour le compte lors de cette émission de ce lundi. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de terminer l'émission. Uriel?
Oui, merci à tous ces auditeurs et auditrices qui ont appelé, toujours dans le respect de leurs opinions. Sauf que l'évangéliste Senghor, il n'a rien compris de mon analyse, de mon explication. Il n'a rien compris du tout. L'évangéliste est passé à côté. Il est karma passé à côté, il n'a rien compris. On n'a pas dit que Ford n'a pas le devoir de développer le pays. Ford n'a pas le devoir de faire des Togolais ceux qui vivent bien. Non, on ne l'a pas dit. J'ai bien dit qu'il ne doit rien à personne au niveau de l'attribution des rôles, des fonctions, puisqu'on parlait des ministres, on parlait des ambassadeurs, on parlait de la nomination des sénateurs et tout. Il fallait qu'il écoute très bien, qu'il suive avant de penser que on n'a pas dit que Ford ne doit pas au Togolais. D'abord, il est le président de la République, donc il doit à nous tous. C'est-à-dire que nous sommes tous des Togolais, nous aspirons au mieux-être. Ça, c'est une chose. Mais nommer un ministre, ce n'est pas écrit quelque part que quand il sera président de la République, il va nommer Godson ministre de l'Agriculture. C'est ça qu'on veut signifier. C'est ça qu'il n'a pas compris.
D'accord.
Alors, Godson, moi, j'ai eu la chance de le croiser une fois. Je sais que c'est un évangéliste. S'il se rappelle, vendredi sur passé, là où il était à 13h, 14h, 15h. On s'est croisé quelque part. Okay. Donc,
oui, Jacques.
Non, je crois que les Togolais, je crois que depuis 20 ans, n'ont pas toujours compris la stratégie de notre président. Et moi, je les invite à plus aller à l'école de M. Faure Gnassingbé. Si vous allez à l'école de Faure Gnassingbé, vous n'aurez pas du tout à vous poser des questions. C'est ça. C'est-à-dire que quand vous allez à son école, vous allez comprendre beaucoup de choses.
Y compris toi-même, parce que tu as critiqué la nomination d'Agadazi.
Non, je n'ai pas critiqué la nomination d'Agadazi, mais j'ai soulevé un fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu l'âge d'Agadazi, M. Agadazi pouvait rester au pays. Il pouvait être conseiller en agriculture et autres, et chercher un autre pour nommer. Donc, c'est ce que je voulais. Je n'ai pas critiqué sa nomination, mais ce que j'ai dit, il pouvait être utile encore ailleurs au lieu d'aller encore souffrir dans ce froid. C'est ce que j'ai dit.
D'accord. Là. Ok. Gosson?
Heureusement que je ne suis ni futur sénateur ni député. Je suis dans mon rôle de journaliste, c'est-à-dire chien de garde. Peu importe qui est à la gouvernance, nous sommes là pour scruter comment le pays est géré. Et on a cette liberté dans le respect, mais dans la franchise, de dire que ce n'est pas parce que cette personne a ta confiance que nous ne devons trouver rien à redire. Je le répète, combien de ministres n'avaient pas la confiance de notre président, mais quand ils étaient aux affaires, on a vu les gaffes qu'ils ont eu à commettre. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Donc, Agadazi ait la confiance de notre président de la République est un fait. Mais que Godson Kitoanya doute de sa capacité à faire ce qu'il doit faire, ça, c'est à ma propre discrétion. Et s'il faut le refaire, je n'hésiterai pas.
D'accord.
Voilà.
Oui, Godson, je reste avec toi maintenant pour ta note de fin d'émission à ton bic rouge ou à ton stylo rouge.
Le bic rouge est brandi en l'air à l'attention du ministre de la Justice qui dit vouloir faire de 2025 l'année du foncier. Mais ce que sont le doyen des juges a posé comme acte en remettant en liberté un prédateur foncier en la personne de Sylvestre Anthony qui a en moins d'un an a recouvré sa liberté sans caution et sans rien
que ce soit, il juge que le ministre creuse ce sujet-là et édifie les populations.
D'accord, mais que rose, ça donne combien?
C'est brandi en l'air, je ne veux pas encore frapper.
D'accord, ok.
J'ai confiance au ministre.
D'accord. Et Urel, votre note, votre bic rose donne combien?
3 sur 10.
À qui?
À tous les maires sortants. 117, c'est ça?
Oui, 117.
À tous les maires sortants, ils ont échoué sur un point, l'assainissement, zéro. Ils ont échoué. C'était la moindre des choses. On n'avait pas besoin des investisseurs de quoi. L'assainissement. Contraindre les ménages à avoir des poubelles.
D'accord.
Ils ont échoué carrément.
Ok, merci beaucoup. 3 sur 10, c'est ça la note. Oui, Jacques.
Parce que je voulais donner 9 sur 10. Je ne sais pas qui est l'initiateur de la réfection de l'hôtel Palmbich. Je ne sais pas. C'est qui? C'est pas si c'est le ministre du Tourisme, si c'est le président de la République, si c'est qui, je ne sais pas. Mais celui qui a pris cette initiative-là, je donne à la personne 9 sur 10. Parce qu'on ne peut pas avoir un hôtel comme ça, en bordure de mer, et l'abandonner comme ça.
D'accord.
J'étais content de passer la dernière fois pour voir les travaux là-bas. Vraiment, celui qui a fait ça là, 9 sur 10 à la personne.
D'accord, 9 sur 10. Merci beaucoup Jacques Zakouti. Gosson Ketomanyan, merci d'être passé dans cette émission. Uriel Nyan, merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés pour votre contribution à ce débat. Merci à vous. Merci à Michel Tomiga qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain mardi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.